Europe 1.
Jouez à Cyberpunk 2077. Conduisez des bolides, combattez des corporations et améliorez votre corps.
On va s'amuser un peu.
Cyberpunk 2077. Achetez-le dès aujourd'hui sur Xbox, PlayStation, PC et Stadia. PEGI 18.
Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici Mathieu Noël, jadis saltimbanque, désormais prof d'histoire, mystère des carrières radiophoniques, mais je vous rassure, d'histoire décomplexée. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on vous fait voyager à travers les siècles à la rencontre de trois personnages hauts en couleur, trois personnages ayant un point commun aujourd'hui, celui d'être belge. Une émission au-dessus de laquelle planera, telle une menaçante épée de Damoclès, cette question. Stéphane Bern imitera-t-il l'accent belge aussi mal qu'il a imité l'accent allemand sur notre spécial Goethe ?
Le trésor est d'autant plus prestigieux qu'elle est représentée en femme.
Prions une fois. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Si vous vous payez encore une fois ma tête, oui. Je rediffuse votre sublime imitation de Garcimore la semaine dernière.
Non, ça va être dur de les valider.
Non, d'accord, alors je ne dis plus rien.
Ok, aujourd'hui nous partons donc à la rencontre de trois Belges célèbres. Adolphe Sax, le célèbre facteur d'instruments de musique, dont le plus connu porte son nom, le saxophone. Celle qu'on a appelée à juste titre la petite sœur des pauvres, sœur Emmanuelle, est née à Bruxelles. Belge d'abord, française aussi, mais pas uniquement, vous verrez. Et quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait d'un Belge bien vivant, si vivant d'ailleurs qu'il est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Philippe Geluck.
Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Bonjour Philippe.
Alors on ne vous présente plus, vous êtes l'auteur du chat. Et comme lui, cet après-midi, vous êtes parmi nous. C'est le titre du nouvel album, un album idéal pour oublier un peu le confinement. Il en est d'ailleurs très peu question. Vous, au moins, vous n'avez pas voulu surfer sur la vague.
Non, je me suis dit qu'en fin d'année, les gens auraient peut-être envie de penser à d'autres choses, à des fêtes de Noël, simplement à rire de sujets pas aussi dramatiques que le confinement, mais donc j'aborde des sujets comme l'euthanasie, le cancer et la
C'est vraiment la BD feel good. Hein.
Oui, voilà.
Mais le sort s'acharne un peu contre vous, Philippe, en France en tout cas, parce que l'année dernière, votre expo itinérante a été annulée à cause du premier confinement, juste exact. Au moment du confinement. Ouais. Du coup, vous avez proposé à votre éditeur de vous atteler à un nouvel album du chat, qui sort donc là en librairie. Et puis finalement, au moment où le gouvernement ferme les librairies, est-ce que finalement le documentaire polémique Hold Up n'aurait pas vu juste ? Il y a un complot, mais pas contre les pauvres, contre vous, Philippe Geluck.
Et vous oubliez de parler de l'exposition que j'ai accrochée au musée Soulages à Rodez.
Et ça aussi, fermé.
Qui a été inaugurée, et 4 jours après l'ouverture, fermeture des musées.
Mais je pense qu'il y a un complot.
Il y a effectivement un complot mondial, contre moi personnellement, mais... N'étant pas complotiste de base, je veux croire au hasard jusqu'à présent.
Et puis avec nous, alors, cet après-midi, ils vont nous parler de la Belgique à leur manière.
Ça me fait peur.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, bonjour à tous, messieurs. Et moi, je vais vous parler d'un auteur français qui a vécu en Belgique et qui était à peu près, peut-être aussi paranoïaque que vous, Philippe Geluck, mais contre les Belges. Alors, cette fois, pas contre la fatalité des confinements. Et il a beaucoup écrit sur la Belgique. Cet auteur, c'est Charles Baudelaire. Il a vécu 2 ans à Bruxelles.
Oui,
et l'une de ses deux phrases est de lui. Laquelle, messieurs, je vous le demande. Les Belges constitue le plus brillant peuple d'Europe, ou bien les Belges sont bêtes, menteurs et voleurs, à votre avis.
La deuxième.
Ouais. Et oui, hélas. Hein.
Vous savez ce qu'on lui a répondu à l'époque ? C'est celui qu'il dit qu'il est.
Et ce sens de la répartie typiquement belge.
Mais alors, comme il était très créatif et que lui-même avait du répondant, eh bien, il qualifiait aussi la Belgique de pays de singes. Alors, pourquoi cette belgophobie chez ce grand poète qui était Baudelaire, et bien c'est ce que nous verrons tout à l'heure.
Avec nous également,
il y a David Castello-Lopez.
On l'aime tellement qu'on veut le dire en même temps, Stéphane. C'est ça le problème.
Et moi, j'ai cherché quelque chose inventé par un Belge.
Vous avez trouvé ?
Et j'ai trouvé un objet dont on se fout un peu, mais c'est pas grave, c'est le stroboscope.
Le stroboscope a été
inventé par un Belge, et donc je ferai l'histoire du stroboscope.
Olivier Pouls, vous occupez de la chronique gastronomique de cette émission. Chaque jour, l'histoire d'une recette. Aujourd'hui, j'espère quand même que vous avez trouvé une recette belge.
Bah forcément, puisqu'en plus je joue à domicile. Je vous rappelle que mes origines également sont belges, nées à Bruxelles. Et donc, je vais vous parler des incontournables carbonades à la flamande. Plat emblématique, je vais vous en raconter l'histoire. Et puis, je vous donnerai une recette aussi, tant qu'à faire.
Enfin, Mathieu, n'oublions pas le rendez-vous préféré des sadiques.
Oui.
Eh oui, le quiz prétendument historique.
Bien sûr, Stéphane, Born to be Alive, ce jeu qui permet à nos auditeurs de réaliser qu'en fait, vous n'êtes pas si balèze que ça en histoire. Ce sera bien sûr une spéciale Belgique, c'est tout à fait de l'histoire à 100%. Gueulux sera là pour vous aider, ne me remerciez pas. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre première célébrité belge de l'histoire, l'inventeur du saxophone. Son nom, Adolphe Sax.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Sans lui, sans ce génial belge, il n'y aurait eu ni Charlie Parker, ni Dexter Gordon, ni John Coltrane. Surtout, les films érotiques bulgares des années 70 n'auraient pas eu la même saveur. Stéphane Bern nous raconte l'histoire d'Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone.
Avez-vous déjà vu un billet de 200 francs belge, Mathieu ?
Non, j'étais pas aussi riche avant le passage à l'euro, ni belge d'ailleurs. Mais Philippe Gueluc peut-être a vu ce billet.
Ah, j'en ai eu plusieurs. C'est un billet qui aujourd'hui vaudrait au taux actuel 5 euros.
Ah oui, d'accord.
C'est pas
énorme, j'aurais pu m'en procurer alors.
Je pense.
Et alors pourquoi vous nous parlez de ce billet ?
Eh bien parce que sur ces billets, désormais objets de collection, on voit un beau jeune homme aux traits fins, barbe et moustache bien taillées, cheveux longs et bien coiffés, costume sombre et la lavalière bien nouée autour du cou. C'est un homme du 19e siècle, on ne peut pas s'y tromper. Antoine Joseph Sax, plus connu sous le nom d'Adolphe Sax, y est représenté avec sa plus célèbre invention, le saxophone, qui n'avait pas encore reçu son E. Celui qui deviendra inventeur de génie voit le jour en novembre 1814 à Dinan, en Belgique donc. L'empire de Napoléon vient de s'effondrer. À 4 mois près, le Dinantais échappe donc à la citoyenneté française. Au congrès de Vienne, les puissances européennes sont en train de redessiner la carte de l'Europe. La Belgique est intégrée au Royaume-Uni des Pays-Bas. Elle prendra son indépendance en 1830. De son côté, Antoine Joseph se fait appeler Adolphe dès son enfance en référence au roman éponyme de Benjamin Constant qui connaît un vif succès en Europe.
Ça se donne plus ce prénom malheureusement. Il n'y a plus beaucoup cette référence à Benjamin Constant aujourd'hui.
Non, c'est un prénom d'ailleurs pour pas parler d'une pièce qui a malheureusement été mal portée.
Il est
l'aîné de 11 enfants. Son père, Charles Joseph, est un facteur d'instruments de musique, c'est-à-dire un artisan qui conçoit, réalise, restaure, répare, entretient et améliore les instruments de musique. Adolphe s'initie à la facture instrumentale dans l'atelier paternel et présente ses propres fabrications, des flûtes et clarinettes en ivoire, à l'exposition de l'industrie de Bruxelles à l'âge de seulement 16 ans. À l'École royale de musique de Bruxelles, Adolphe Sax apprend le solfège, l'harmonie, pratique le chant, la flûte et devient un virtuose de la clarinette. On raconte qu'il aurait été interdit de concours sur tout le territoire belge pour laisser leur chance aux autres participants.
Mais c'est un peu comme Stéphane, parce que vous savez que sur les autres chaînes, ils n'osent plus présenter des émissions sur l'histoire, tellement les vôtres sont remarquables.
Je sais, vous avez raison.
J'ai l'impression qu'il tente d'influencer sur le portrait de lui qui aura lieu plus tard dans l'émission.
Ah non, pas du tout.
Vous savez, Philippe Gueluc est un homme généreux et surtout quelqu'un qui sait reconnaître les vrais talents.
Bien sûr, Stéphane.
Poursuivez sur Adolphe Sax.
Mais Sax s'inscrit dans l'esprit d'entreprise du 19e siècle, le siècle du progrès. Lui aussi veut innover. Il commence par perfectionner de nombreux instruments pour améliorer leur acoustique, leur précision ou leur ergonomie. À 24 ans, il apporte des améliorations significatives à la clarinette basse, lui donne sa forme rectiligne et augmente sa tessiture. Dès 1838, Adolphe Sax planche sur la construction d'un instrument à vent au registre grave à forme conique avec un tube métallique, un bec à hanches simple et un système de clés. Le saxophone est né. 3 ans plus tard, c'est derrière un rideau qu'il le fait entendre à l'exposition de l'industrie de Bruxelles, son invention n'étant pas encore brevetée. Le succès est immédiat. Le rapport officiel de l'exposition présente Sax comme le premier facteur belge qui fit des efforts efficaces pour parvenir à cette émancipation industrielle. Séduit, le compositeur français à Lévis l'invite à rejoindre Paris, où se trouve le fleuron de la facture instrumentale. Sax quitte la Belgique et s'installe dans notre capitale. Il a 27 ans et ouvre sa propre fabrique, rue Neuf-Saint-Georges, dans le 9e arrondissement, sous l'œil méfiant des facteurs d'instruments à vent parisiens qu'il appelle l'étranger ou le belge. Quelques mois plus tard, il fait la rencontre du grand compositeur Hector Berlioz. Les grands esprits se rencontrent et s'apprécient tout de suite. Bientôt, Berlioz écrit dans le très intellectuel journal des débats au sujet du saxo, « La sonorité est de telle nature que je ne connais pas un instrument actuellement en usage qui puisse, sous ce rapport, lui être comparé. C'est plein, moelleux, vibrant, d'une force énorme et susceptible d'être adouci. » Conquis, Berlioz confirme son admiration en composant le chant sacré pour sextuor à vent. C'est la première fois qu'on entend résonner dans une œuvre quelques notes de saxophone jouées par Sax lui-même. S'il est fier de son instrument, ne gloussez pas, Adolf Sax ne s'en contente pas. Ce que veut Sax, c'est créer une famille d'instruments. Le but ? Couvrir toute la tessiture de la voix humaine et faciliter ainsi l'intégration des instruments au sein de l'orchestre. Et c'est un succès. Ces instruments sont officiellement adoptés dans les musiques militaires par le ministre des Armées, le général de Rumini. L'année d'après, il dépose un brevet pour la famille des saxophones qui comprend la contrebasse, la basse, le baryton, le ténor, l'alto, le soprano et enfin le sopranino. Mais ce n'est pas tout. Sax crée bien d'autres instruments avant comme le sax horn, le sax tromba, le sax tuba. Il déposera plus d'une quarantaine de brevets pour ses inventions. Sax et ses saxophones sont partout. En 1847, il dirige la fanfare de la scène de l'opéra. En 1854, il est facteur de la maison militaire de Sa Majesté l'Empereur Napoléon III. Sax reçoit la croix de la Légion d'honneur. Il rafle les plus brillantes récompenses aux expositions de l'industrie, puis aux expositions universelles en France ou à l'étranger. Il obtient même le seul grand prix décerné à la facture instrumentale à l'Exposition universelle de Paris. Pour son génie d'invention dans tous les genres d'instruments avant. Alors forcément, il fait des jaloux. Victime de son talent, Adolf Sax est l'ennemi public numéro un des facteurs parisiens qui font publier des articles haineux et des caricatures blessantes à son sujet, le taxant de folie, l'accusant de gaspiller l'argent de ses commanditaires. Le comble survient lorsque ses détracteurs exportent son instrument, effacent sa marque et le réintroduisent en France pour l'accuser de plagiat.
Ça, c'est vicieux.
Sax est convoqué au tribunal, mais le créateur ne va pas se laisser faire.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
On parle aujourd'hui des illustres belges de l'histoire avec Philippe Geluck, un illustre belge contemporain dont la BD Le chat est parmi nous vient de sortir. Philippe, on parle d'Adolf Sax, l'inventeur du saxophone. Il était fier de son instrument, Adolf, nous disiez-vous Stéphane, mais ses concurrents français l'accusent, vous nous le disiez, d'avoir plagié l'objet qu'il a pourtant lui-même inventé.
Oui Mathieu, et cher Philippe, même chose, d'innombrables procès sont intentés contre Adolf Sax. S'il les gagne tous au fil des ans, les procédures le ruinent. Et il fait faillite à trois reprises. Quelques mécènes lui viennent alors en aide, comme l'impératrice Eugénie, l'épouse de l'empereur Napoléon III, qui lui offre une somme de 4000 francs or. La saisie de ses biens est évitée de justesse. Mais voilà qu'au retour du tribunal, il découvre son atelier en flammes, un incendie jugé criminel dont on ne retrouvera jamais les auteurs. Adolf Sax ne se laisse pas abattre pour autant et, l'esprit toujours en éveil, il continue d'inventer, même si s'enchaînent 20 années de procès. Sax meurt le 7 février 1894 à l'âge de 80 ans et ne connaîtra donc pas l'épopée fantastique du saxophone au XXe siècle qui s'ouvre. Adopté par les compositeurs classiques, les Massenet, Charpentier, Debussy, Ravel, Prokofiev ou encore Bizet, le saxophone est enseigné au Conservatoire National de Paris à partir de 1942. L'ouverture de cette classe, eh bien on la doit au grand saxophoniste Marcel Mull. Ce qui donne au saxophone ses lettres de noblesse et en font un instrument soliste, ce sont évidemment les jazzmen. Coleman Hawkins, Charlie Parker, Lester Young, Benny Carter, Ornette Coleman et bien d'autres rois outre-Atlantique du saxo qui s'époumonnent dans l'invention de Sax, mais sur des instruments de la maison Selmer, qui a racheté la fabrique de Sax en 1928, voilà. Le Selmer Mark IV, instrument préféré de la star du free jazz, John Coltrane, est considéré comme le meilleur saxophone au monde. Et la grande histoire du saxo continue de s'écrire, ou plutôt de se jouer, sur toutes les partitions. Des solos mythiques des Beatles Pink Floyd, Supertramp et bien plus récemment dans des musiques électro.
Quel connaisseur vous faites, Stéphane. Votre culture musicale est aussi bluffante que votre culture historique.
Oui, n'en rajoutons pas, Mathieu. Mais concluons ce récit sur les mots de celui qui restera jamais le premier à avoir repéré les qualités du génial Adolphe Sax, Hector Berlioz, qui écrivait à son sujet. C'est un homme d'un esprit pénétrant, lucide, obstiné, d'une persévérance à toute épreuve, d'une grande adresse, à la fois calculateur, acousticien et au besoin fondeur, tourneur et ciseleur. Il sait agir et penser. Il invente et il exécute.
Un Belge, en somme.
Europe 1, historiquement vôtre.
Un Belge de talent comme notre invité Philippe Geluck. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de votre illustre compatriote Adolphe Sax?
Bien entendu, mais jamais aussi bien raconté qu'aujourd'hui.
Stéphane Bern, évidemment.
Oui, bien sûr, je suis fasciné par ce bonhomme. Ayant moi-même appris la clarinette quand j'étais enfant, J'en jouais beaucoup moins bien que lui, et j'ai même appris le saxophone ténor pour en interpréter certains morceaux dans des pièces de théâtre lorsque j'étais comédien. Donc bien sûr, je connaissais Sax. Le jazz n'aurait pas été le même si le saxophone n'avait pas été là.
D'ailleurs, vous avez écrit, et je crois que dans un des albums du Chat, vous lui avez fait dire si Adolphe Sax était appelé Adolphe Vandenbroek, Charlie Parker et John Coltrane auraient été deux fameux Vandenbroekophonistes.
Mais oui, c'est tout de même rare de s'appeler Sax.
Oui, c'est vrai. C'était pas un pseudo, c'était un...
Voilà. Absolument. Et magnifique. Et puis bon, formidable. Je suis fasciné par ce métier de facteur d'instruments. On en a beaucoup parlé. Et c'est ce qui explique parfois le retard de la livraison du courrier en Belgique, parce que tous nos facteurs doivent jouer un morceau de clarinette avant de mettre les lettres dans la boîte.
C'est pas les mêmes. Les facteurs d'instruments ne sont pas les mêmes que les facteurs de la poste.
Merci pour cette précision. Je crois que Philippe n'avait pas compris.
Il faut dire que Dinan est une ville que vous connaissez peut-être, Philippe. C'est la ville natale d'Adolphe Sax qui voue à Adolphe Sax un véritable culte. Ils ont même dédié un espace à Dinan dans la maison où il est né. Il y a tout un parcours interactif et musical. Est-ce que, Monsieur Geluck, vous avez eu l'occasion de visiter la maison de Monsieur Sax?
Non, hélas, pas encore, mais votre émission m'y encourage. J'irai, mais je connais bien la ville de Dinan, qui est très particulière, qui est le long de la Meuse, avec le célèbre rocher Bayard, qui est une espèce de menhir de haut comme la tour Eiffel, et qui est fendu en deux. Et on raconte que c'est le cheval Bayard, vous savez, de la mythologie moyenâgeuse, et qui emmenait les quatre fils Aymon sur son dos, donc c'est vous dire la taille de la bête, qui aurait fendu ce rocher d'un coup de sabot.
Effectivement, c'est une belle histoire.
C'est une belle histoire.
Elle demande à être vérifiée.
Je n'en crois rien. Mais Dinan est aussi la patrie de la Cook de Dinan, qui est une pâtisserie dont la texture est à peu près aussi costaude que la table sur laquelle nous travaillons. Et en fait, c'est un espèce de biscuit qui représente un bas-relief qui est cuit, recuit et re-recuit, qui est immangeable.
Pourquoi ils le vendent?
Parce qu'il sert de souvenir, si vous voulez.
Ah, d'accord, ça se mange pas.
C'est un souvenir. C'est un souvenir comestible.
Certains s'y sont cassés les dents.
Ça vous plairait que je bluffe complètement, Berne, parce que ça, il ne le sait pas.
C'est le principe de cette émission, allez-y.
Vous connaissez Antoine Wiertz, qui est un petit peu un initiateur du symbolisme et du surréalisme. C'est un artiste belge qui a son musée à Bruxelles. Et il était sculpteur aussi. Et il a sculpté, il avait le projet de faire construire sur les hauteurs de Dinan, sur cette espèce de grand rocher, une... sculpture qui s'appelait Le Triomphe de la Lumière. Et c'est une femme qui tient en l'air comme ça un flambeau.
Un peu comme la Statue de la Liberté.
Eh bien, Bartholdi s'est inspiré du Triomphe de la Lumière pour la Statue de la Liberté.
C'est une copie de la Statue de la Liberté.
Donc New York est un petit peu un Dinan bis, si vous voulez.
Mais vous nous avez donné envie d'aller à Dinan.
Mais bientôt on pourra, Stéphane.
Alors, on continue notre spécial belge, des Belges illustres. Et on parle d'Adolphe Sax en particulier avec notre invité, qui lui est un illustre belge vivant, Philippe Geluck, sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils font la fierté de la Belgique. On parle aujourd'hui des Belges célèbres de l'histoire avec l'un des plus célèbres actuels, Philippe Geluck, l'auteur du Chat. D'ailleurs, un nouvel album vient de sortir, Le Chat est parmi nous, qui fait vraiment du bien en cette période. On parle d'Adolphe Sax, votre illustre compatriote.
Qui était belge, évidemment. Ouais. Et lui, il est tombé, alors ce qui est fou, c'est qu'il est tombé très tôt dans la marmite de la musique grâce à son père. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du dessin? Parce que vous le rappeliez incidemment tout à l'heure, Philippe, c'est que vous avez commencé par être comédien.
Oui, mais avant d'être comédien, je dessinais déjà et j'ai publié mon premier dessin à l'âge de 16 ans. Et en fait, moi, ce qui m'a fait tomber dans la marmite, c'est que mon père avait été dessinateur de presse. C'est que mon frère était graphiste. Donc, c'est pareil. Ils auraient joué du saxophone, je serais peut-être devenu musicien. Mais c'était dans l'ADN de la famille. Et quand mon père a vu mes premiers dessins humoristiques, très noirs, très grassants...
Il a tout de suite perçu le talent ?
Il m'a dit, tu dois jamais lâcher ça. Il était très sévère, il avait un avis très tranché sur les choses. Et donc, je me suis fié à ce qu'il me disait. J'ai essayé de perfectionner, d'améliorer, de renouveler. Et je continue à le faire et je pense beaucoup à lui.
Adolphe Sax, dont on parle, qui a donc créé le saxophone, le succès de cet instrument, on le doit à des grands compositeurs qui admiraient le saxophone, la création d'Adolphe Sax. C'est le cas d'Hector Berlioz. C'est d'ailleurs lui qui compose le chant, ou Hymne sacré, la toute première œuvre comportant un saxophone qu'on a entendu. Mais ça suffit pas du tout de créer quelque chose, il faut que les autres s'en emparent. C'est ça qui a fait le succès du saxophone, finalement. Il aurait pu tomber en désuétude, cet instrument. Vous, Philippe Gueluc, en analysant votre vie rétrospectivement, est-ce que vous vous êtes dit... Si mes dessins n'avaient pas tapé dans l'œil déjà de mon père qui m'a encouragé dans cette voie, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que vous auriez pu ne pas dessiner? Ou est-ce que c'est quelque chose de tellement inscrit en vous que, publié ou pas, vous auriez dessiné?
J'ai ça en moi. Vous savez, quand on a une pulsion comme artistique comme ça, c'est comme, quand on est humoriste, on peut pas s'empêcher de faire des blagues.
Oui, mais peut-être la pulsion, on peut se tourner vers d'autres choses. Si, par exemple, un humoriste qui n'a pas de spectateur, il va pas être humoriste toute sa vie. Si, il va faire rire ses proches.
Voilà, il fait rire ses proches. Et puis un jour, il y a un proche qui va en parler à quelqu'un. Et puis le truc va se déclencher. Alors évidemment, il y a ce petit coup de baguette magique du destin qui fait qu'à un moment on en parle et puis on vous demande et puis on vous redemande, mais je pense que quand on a ce truc en soi, on peut pas renoncer et on peut pas prendre une autre voie.
Il y a une chose différente dans vos parcours, celui d'Adolphe Sax et le vôtre, Philippe, c'est que Adolphe Sax, c'est une vie de faillite. Il fait faillite à plusieurs reprises à cause du contexte politique, économique et surtout tous ces procès.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas eu ça? Il n'y a pas des gens qui...
Il n'y a pas quelqu'un qui vous a dit c'est moi qui ai créé le chat.
Ils ont fait le chat avant vous.
Non,
il y a eu Félix le chat quand même avant.
Oui, il y a eu des chats. Mais non, vous savez, alors je suis... comment dire, esbody, ça se dit, devant votre récit sur la jalousie des facteurs parisiens qui ont mis feu à son atelier, qui lui ont fait des procès. Pourquoi? Non, au contraire, j'ai l'impression que dans le monde de la BD et du dessin d'humour, il y a une confraternité, une bienveillance entre nous tous. Nous admirons le talent des autres. Enfin, moi, j'adore admirer les autres. J'adore parler de livres que j'ai aimés. Moi, j'ai beaucoup répandu sur...
Vous n'êtes pas sujet à la jalousie, en tout cas.
Peut-être, mais en tout cas, moi, je n'en ressens aucune envers les autres. Mais peut-être, et en tout cas, d'aucune mauvaise intention.
Mais vous ne vous êtes jamais retrouvé dans des situations économiquement difficiles au point
de me prostituer.
C'est Mireille Dumas qui est avec nous, Stéphane.
Non, alors mais si, j'ai commencé, on était rasés comme les blés, on n'avait pas un rond, ma femme et moi, on a démarré avec zéro centime. Vous savez, quand j'étais jeune comédien, on avait transformé un vieux cinéma en théâtre, et avec sous, etc., on n'avait pas beaucoup de sous, et à un tel point que quand le midi, quand on allait déjeuner, on allait dans le petit restaurant portugais qui faisait face au théâtre, et ma femme et moi, on prenait un plat du jour pour deux, avec une carafe d'eau, c'est vous dire, donc on a, voilà. Et puis, ça a mis beaucoup de temps à on a pu s'acheter quelques épinards un jour et puis le beurre qu'on a pu y rajouter est venu longtemps après, mais ça fait partie du chemin et c'est merveilleux aussi. Alors chez Sax, ça a été le contraire. À un moment, il avait du beurre, il avait de la crème, tout ce qu'il voulait, et puis il n'a plus que les épinards, et puis on lui a retiré son assiette à la fin. C'est désastreux. 80, enfin un boulot, un génial inventeur comme ça qui se retrouve ruiné à 80 ans et qui finalement se dit pourquoi tout ça.
Et le pire, c'est d'avoir inventé le saxophone et ne jamais l'entendre dans sa version jazz, qui est quand même la quintessence du saxophone. Ne jamais avoir entendu John Coltrane jouer du saxophone, c'est quand même un peu triste.
Mais si on va parler, on peut se dire que le type qui a inventé la roue a jamais vu un Grand Prix de Formule 1 non plus. Donc,
c'est assez bien vu, Philippe, tout ça. C'est assez bien vu. Est-ce que vous, Philippe, pour terminer, puisqu'on parlait de réussite professionnelle, quand on est entrepreneur, on fait une entreprise, on imagine, on se prépare à gagner de l'argent. Mais quand on fait de la BD, surtout dans une époque où la BD n'est pas, aujourd'hui, ça a un statut, c'est très reconnu. devenue la BD des adultes, lisent des BD. Mais à l'époque, c'était encore un peu une niche. C'était, est-ce que vous imaginiez une telle carrière? Parce que le chat, on va pas se mentir, ça rapporte quand même de l'argent. C'est quand même une marque très connue. Et donc, j'imagine que vous vivez confortablement. Est-ce que vous étiez préparé à ça? Vous en étonnez encore aujourd'hui? Vous dites, tiens, c'est fou. Avec mon dessin, finalement, j'ai mieux réussi que des chefs d'entreprise puissants.
Voilà, j'ai pu nourrir ma famille et faire du bien autour de moi, etc. Non, je ne l'avais pas anticipé une seule seconde. Je ne m'y habitue pas. J'en reste émerveillé, mais non pas de l'argent que ça rapporte, mais du succès remporté par le chat. Des gens qui m'en parlent et qui me disent, vous savez pas comme ça nous fait du bien. Et je donne les albums à ma femme qui est gravement malade. Et chaque fois qu'elle en lit un, hop, elle va mieux. Et donc, il y a peut-être même un pouvoir magique.
Mais c'est vrai que ça dure, le chat. Le chat dure. Enfin, le succès du chat et l'amour que les gens ont pour votre chat dure. 23e tome, c'est quand même pas rien, quoi.
Oui,
je parle l'exposition, la sculpture monumentale du chat en bronze. Vous avez votre statue.
Qu'on a tous vu. Enfin, oui, on l'a pas vu, l'exposition monumentale. Elle devait avoir.
On attend. Oh. Est-ce qu'on va la voir un jour?
Ben oui, on la verra théoriquement. Oui. Ça a été.
Il y a le musée.
Oui, 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 mais on le verra un jour aussi.
Mais quand est-ce qu'il ouvre ce musée?
Non, mais tout ça,
la dernière fois, c'était vu la saison dernière. Vous m'avez dit que le musée était en bonne voie.
Il est toujours en bonne voie, mais là, si vous voulez, c'est pas une voie de garage, je vous l'avais. Mais c'est un peu comme. Je pensais que ce serait juste un Paris-Bruxelles. C'est le transsibérien que nous avons pris. Mais nous arriverons jusqu'à Pékin. Je vous le promets. Et pour le reste, c'était quoi votre question déjà? Les projets. Non, mais c'est vrai que je mène des projets pharaoniques. Et cette exposition de sculpture qui devait voir le jour sur les Champs-Élysées en avril 2020 est reportée à avril 2021.
2021, alors, on aura le vaccin, on sera bien, on pourra se balader sur les champs. Oui.
Puis-je lancer un appel aux Français? Faites-vous vacciner rien que pour que mon exposition puisse avoir lieu.
On cherchait une raison.
Voilà. Oui, mais j'attends maintenant que le vaccin soit déjà disponible.
Oui, Stéphane. Mais je ne vais pas me faire vacciner maintenant.
Mais on va le tester. C'est d'abord sur les vieux, Stéphane. Donc vous serez prioritaire.
Ah ben oui.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les après-midi de 16h à 18h, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. Aujourd'hui, on parle belge avec notre invité Philippe Geluck, mais aussi avec vous Clémentine Portier-Kaltenbach, qui nous racontait une histoire dont vous avez le secret. Et une histoire belge aujourd'hui.
Oui, l'histoire de Baudelaire. Sur les trois dernières années de sa vie, il a passé 2 ans en Belgique. Il y arrive le 24 avril 1864 et il s'installe à l'hôtel Le Grand Miroir, rue de la Montagne.
C'est un bon hôtel ça, Philippe?
Oui. Il existe encore?
Je crois pas. Mais
C'était un hôtel de qualité, quoi.
Il roulait pas sur l'or.
Il était fauché.
Il était invité par une société belge à parler de sa poésie.
Une semaine après son arrivée, il écrit déjà à sa mère que les Belges constituent une masse immense de cervelle vide et sont encore plus bêtes que les Français, c'est dire. Alors, pourquoi est-ce que Baudelaire écrit des choses aussi horribles à propos des Belges? Eh bien, c'est sans doute lié à sa déception. Parce qu'il n'a pas trouvé en Belgique ce qu'il s'attendait à y trouver. D'abord, il pensait trouver un éditeur, il était couvert de dettes, vous venez de le dire à l'instant, quand il a quitté Paris. Et puis, il pensait qu'il pourrait donner des conférences comme critique d'art. Ça avait pas mal marché pour un certain nombre de littérateurs avant lui, ça avait marché pour Victor Hugo. Pour Baudelaire, ça ne fonctionne pas. En plus, il est malade en permanence, il a différentes attaques. Bon, je vous apprends rien.
C'est le climat belge, ça lui réussit pas.
C'est pas le climat belge, c'est que quand on a à la fois la syphilis et qu'on a beaucoup consommé de hashish pour pouvoir écrire Les Fleurs du Mal.
Et d'opium,
on n'est pas dans une forme pétaradante.
Non, on ne peut pas se rendre compte, nous.
Ah, ouais.
Stéphane.
Il broie du noir et évidemment, du coup, il rejette sa colère, son amertume, sa frustration sur les Belges. Et au fur et à mesure de son séjour, il est de plus en plus remonté contre la Belgique, où il écrit « s'ennuyer mortellement ». Alors, quand il arrive à Bruxelles, il envisageait d'écrire un beau livre, plutôt un livre d'art, sur les riches collections particulières de Belgique, ou alors sur les plus beaux monuments de Belgique. Mais très vite, ce projet est abandonné, il en devient un tout autre, celui d'un ouvrage intitulé « Pauvre Belgique ». Heureusement, tristement, Baudelaire mourra avant d'avoir pu le faire publier. Mais il avait pensé pour cet ouvrage à toutes sortes de titres plus insultants les uns que les autres. La Belgique toute nue, la Belgique déshabillée, la grotesque Belgique, et justement aussi la capitale des singes, parce qu'ils considéraient que les Belges, en somme, étaient un peu des sous-français, qu'ils singeaient les Français, et que notamment, pour certains monuments bruxellois, comme le Palais Royal de Bruxelles et la Bourse, étaient de pâles imitations de ces édifices parisiens. Et c'est vraiment, les propos de Baudelaire sur la Belgique sont hyper agressifs, et sa haine de la Belgique et des Belges va finir par tourner à l'obsession. Du coup, il se met à amasser fiévreusement, à découper tous les journaux, le moindre entrefilet où il pense trouver une information susceptible de démontrer la bêtise belge. Il passe en revue les mœurs, les arts, la politique, la religion. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Alors en témoignent ces lignes extraites de ce projet de livre. La France a l'air barbare vue de près, mais allez en Belgique et vous deviendrez moins sévère pour votre pays. Cet autre aussi, comme Joubert, remerciez Dieu de l'avoir fait homme et non femme. Vous le remercierez de vous avoir fait non pas belge, mais français. Il y a grand mérite à faire un livre sur la Belgique. Il s'agit d'être amusant en parlant de l'ennui, instructif en parlant du rien. Et quant aux Belges eux-mêmes, ici, les femmes marchent les pieds en dedans. Gros pieds plats. Gros bras, grosse gorge et gros mollets des femmes. Les Bruxelloises ont une force marécageuse. Alors vraiment, vous voyez d'où passe la moulinette de son mal-être.
Je préfère la chanson de Brel sur les Flamands.
Enfin, tout y passe chez Baudelaire. Il y a les Flamandes, oui, les femmes, les chiens, le roi des Belges et même la rivière locale qui s'appelle...
Oh, il dit rien sur le roi des Belges, j'espère.
Si. Mais tout y passe, je vous dis. La rivière locale qui s'appelle la Seine à Bruxelles.
La
Seine, exactement. Oui. Il lui dédie un poème dans une série intitulée Amenitates Belgicae, ce qui est de ces fleurs du mal. Hein. Amenitates, ça veut dire les aménités. C'est en gros les gentillesses ou les amabilités. Amabilité belge, en fait, on comprend bien que c'est tout à fait ironique. Et juste en voici quelques vers. Car cette Seine, à proprement parler, où de tout mur et de tout fondement, l'un des descriptible tombe en foule, ce n'est guère qu'un excrément qui coule. Ces vers sont vraiment tristes parce que ils sont vraiment médiocres par rapport au grand poème de Baudelaire et ils témoignent de la faiblesse.
Mais il se rend malheureux lui-même.
C'est aussi son esprit qui sombre, si vous voulez. Je vous rappelle qu'en 1866, il fait une grave chute dans l'église Saint-Loup de Namur. Mmh. Il perd connaissance et il est hospitalisé à Bruxelles.
On était un peu vexés par tout ce qu'il avait écrit. Donc, il y a un type qui a mis une peau de banane
sur l'escalier de l'église. Vous l'avez pas loupé parce que là, il se retrouve complètement immobilisé, victime à la fois d'hémiplégie et d'aphasie. Il ne reviendra à Paris qu'en août 66 et il meurt un an plus tard, le 31 août 1867.
67.
À 46 ans. Essentiellement rongé par la syphilis. Enfin, contrairement à ce qu'écrivait ce poète amer et douloureux, les Belges sont un grand peuple qui partage avec les Britanniques un sens de l'humour et une capacité d'autodérision que le monde entier ou presque leur envie. Et pour le prouver, en 2017, année des 150 ans de la mort de Baudelaire, la ville de Bruxelles a consacré une exposition à son séjour en Belgique. Une exposition dont les visiteurs étaient accueillis par cette phrase de Baudelaire, écrite en lettres d'or géantes. Tous les Belges, sans exception, ont le crâne vide. Eh bien, c'est sans doute pour ça que chez eux, les librairies ont été autorisées à rester ouvertes.
Ah, joli, bravo.
Jolie chute. Et juste un mot, Philippe Guilluc, sur cet atavisme belge. Pourquoi on le dit toujours comme un cliché que les Belges ont ce sens de l'humour, de l'autodérision aussi, et de l'absurde?
Moi, j'ai l'explication. Ah. Parce qu'on est un petit peuple, un petit pays, et que quand on est petit, on n'a que ça pour comme arme, c'est de d'abord rire de soi pour que les autres ne le fassent pas. Tout autour, on s'est toujours foutu de notre gueule. Donc on se dit, vaut mieux y aller d'abord nous-mêmes. Ouais. Et ensuite, parce que nous avons... Alors pourquoi cet amour du surréalisme, du second degré, de l'humour un petit peu british, c'est que nous avons été occupés militairement par tous nos voisins. La Hollande, l'Allemagne, comme tout le monde, les Romains, il y a beaucoup plus longtemps, les Français. Ouais. Vous savez que Louis XIV avait fait bombarder et détruire entièrement la grande place de Bruxelles, qui est un joyau de l'architecture gothique. Et nous avons été traversés par toutes les cultures. On a été espagnols pendant des centaines d'années. Et donc, notre culture est empreinte de tout ce qu'on a essayé de garder de meilleur de toutes les autres cultures, et on en a fait quelque chose d'absolument unique au monde, et c'est ce qui rend cette spécificité belge si admirable.
Et c'est vrai, le fait que vous soyez un petit pays, c'est que les petits pays, il y a deux choix possibles, c'est soit l'humour, soit la fiscalité. Moi je suis suisse, on a choisi plutôt la fiscalité. Merci Clémentine Portier-Kaltenbach, vous restez avec nous, Philippe Geluck, vous restez, c'est un moment particulièrement croustillant de l'émission qui se profile, une séquence où les masques tombent, notre quiz d'histoire. Stéphane est normalement opposé à Clémentine et il s'y casse souvent les dents. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Stéphane, pour vous motiver ?
Si seulement je pouvais tricher.
Voyez un peu l'état d'esprit. C'est absolument déplorable et c'est comme ça tous les jours.
Mais on le connaît, on le connaît.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous le savez, chers auditeurs, Stéphane Bern est quelqu'un qui se distingue par sa classe et son élégance de chaque instant.
Oui,
chaque
oui,
instant,
vrai.
Sauf l'instant du quiz. Ce quiz redoutable qui, jour après jour, érode un peu plus la réputation de type calé en histoire de Stéphane, car il affronte la terrible Clémentine Portier-Kaltenbach. D'abord, respectueux de son adversaire, au fil des défaites, Stéphane la présente de manière de plus en plus biaisée, afin de la déstabiliser psychologiquement.
Elle a 47 ans, mais elle en paraît 20 de plus. Elle est complètement ruinée par les excès d'alcool.
Mais non. Les souffrances de la vie, oui, non, Stéphane, vous en prie, un peu de fair play. Jouons à Bern to be alive, notre fameux quiz. Alors aujourd'hui, comme on a la chance d'avoir Philippe Geluck, l'auteur du Chat, en studio avec nous.
J'espère qu'il va m'aider.
Je rappelle, Stéphane, si vous ne l'avez pas encore lu, le Chat est parmi nous. La nouvelle bande dessinée, les nouvelles aventures du Chat, idéal pour vivre ce confinement et pour vivre les fêtes qui arrivent. Et Philippe Geluck étant avec nous, on fait un quiz évidemment spécial Belgique et spécial Chat. C'est une doublette aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. Stéphane, première question pour vous. Vous avez le droit de vous servir de Philippe comme d'un super joker. Lui demander conseil pour vous orienter, et Dieu sait que vous allez en avoir besoin. Question 1 pour vous, Stéphane. Baudouin Ier a été le roi des Belges durant 42 ans et 14 jours. Il nous a quittés, enfin, surtout les Belges, en juillet 1993. Durant son règne de Baudouin Ier, il a été déclaré comme dans l'impossibilité de régner durant 36 heures. Vrai ou faux ?
Oui, c'est vrai. C'était au moment où il a refusé de signer la loi sur l'avortement.
Vous avez gagné !
Alors là, vous me bluffez, Stéphane. Vous n'avez même pas eu besoin de l'aide de Philippe Geluck, qui le savait aussi. Vous
bien sûr, j'aurais pu.
Évidemment, c'était en 90, fervent catholique. Il ne voulait pas ratifier la loi dépénalisant l'avortement. Le Conseil
pour autant,
des ministres...
Il acceptait que la loi puisse passer. Et donc, ils ont trouvé une subtilité, c'est de déclarer le fait que...
Il était d'accord avec ça.
Il ne pouvait pas faire autrement. Voilà, la Constitution veut que le roi signe les lois.
Ouais.
Mais il n'a pas à donner son avis, il n'a aucun pouvoir politique.
Oui, bien sûr, oui.
Et mais donc, le trône a été déclaré vacant pendant 24 heures.
Il a été déclaré incapable pendant 36 heures.
Dans l'incapacité de régner.
Oui. Le temps de voter, mais, et il a été réhabilité juste après.
Et je vous renvoie à un texte sublime de Frédéric Mitterrand, parce que tout le monde criait au scandale, etc., en disant, mais peut-être qu'on doit se poser la question sur est-ce que les rois n'ont pas le droit à avoir aussi une conscience un jour, une fois de temps en temps, pendant 36 heures. Et c'était un très beau texte, d'ailleurs.
Stéphane, c'était une question belgique. Donc la question,
question chat,
c'est pour Clémentine. Question chat. En Angleterre, au XVIIIe siècle, George III était un amoureux des chats. Tous les Londoniens qui adoptaient un chat abandonné dans les jardins de Buckingham Palace se voyaient offrir une entrée gratuite à la ménagerie royale. George IV, qui n'en avait rien à faire, a arrêté cette pratique sitôt arrivé au pouvoir. Vrai ou faux ?
Je pense que ça peut être vrai, parce que George III était quand même souffrant de porphyrie aiguë, totalement cinglé. La porphyrie, c'est une maladie sanguine. Mais ce qui m'étonne...
Vous n'avez pas vu La Folie du roi George ?
C'est que George III était extrêmement radin. Il avait fait arrêter le chauffage dans les serres de Kew, qui tous les orangers ont crevé. Donc le fait qu'il donne de l'argent contre un chat, c'est ça qui m'intrigue dans cette histoire. Son fils était vraiment un médiocre absolu, que son fils ait interrompu cette mesure tout à fait généreuse vis-à-vis des chats, ça m'étonne pas du tout non plus. Est-ce que la question c'est est-ce que son fils a arrêté ou est-ce que George III a inauguré?
Non, ça c'était une information que
je
vous donne.
Moi je pense que George IV est un souverain à mes yeux extrêmement antipathique et vain.
Donc il a fait
et snob. Je pense que oui, il a pu arrêter de donner une pièce au chat qui était récupéré. Oui.
Vous avez perdu.
En revanche, si à la même époque vous veniez avec votre chat à la ménagerie, vous n'aviez pas à payer. En revanche, vous donniez votre chat à manger au tigre. C'était la tradition.
D'accord.
Belle tradition.
Bien.
Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Question chat.
aussi. Oh, en 1929, deux scientifiques du New Jersey ont réussi à transformer un chat vivant en téléphone. Et ça fonctionnait très bien. Vrai ou faux? Je précise que je n'ai pas bu avant de prononcer cette question.
C'est une question d'histoire, hein, il faut le savoir.
C'est une question d'histoire, on est en 1929, il y a eu 2-3 événements cette année-là. Mais il y a eu aussi cet événement-là. Je vous pose la question, est-ce que d'après vous c'est vrai? Un chat vivant qui s'est transformé en téléphone?
Ça a l'air vrai, hein, comme ça.
Ça a l'air vrai. Après, réfléchissez.
Et ils ont branché l'animal sur une source.
Je ne suis pas allé si loin dans le détail.
Non.
Je vous demande si un chat vivant est devenu un téléphone par l'entremise d'une expérimentation.
Et vous parliez où?
Dans l'oreille. Sa tête, on vous dit juste, on vous donne un indice, sa tête était malade.
Oui, alors je dirais oui. Oui, sa tête, je me parle à mon truc oui. Parce que ma tête est malade.
Oui, oui, je ne sais pas qui est malade là-dedans, mais nous allons voir la réponse.
Vous avez gagné.
Il a gagné, oui, vous avez gagné, les enfants.
Quoi.
Ne faites pas ça non, chez vous. Écoutez bien. Les deux scientifiques ont relié le nerf auditif d'un chat à des électrodes sur amplificateur. Quand on parlait dans l'oreille du chat, on entendait l'interlocuteur un peu plus loin dans une enceinte. On a tué le chat pour voir si c'était vraiment lui qui entendait. Et en effet, la communication a coupé. Ça a l'air cruel, mais c'est ainsi qu'on a mis au point les premiers implants permettant aux malentendants d'entendre.
Ah, bon,
oui,
voilà, on finit par le haut.
Toujours
quand même.
On finit toujours par le haut.
C'était pas simplement pour s'amuser.
Non.
Et le chat était malade.
Oui, je vous en prie.
Il n'entendait plus très bien, paraît-il.
Dernière question pour vous, Clément. Question Belgique. Depuis le 7 février 1831, les symboles nationaux du pays sont fixés. Or, si on lit la constitution de la Belgique, et si on regarde le drapeau, on constate une erreur. Vrai ou faux?
Alors, quels sont les symboles de la Belgique? Le drapeau rouge, jaune et noir, ça c'est les couleurs du Brabant. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il y a sans doute, j'imagine, des armoiries qui sont celles des Côte-Bourgota.
L'union fait la force, oui. Qui est la devise nationale.
Mmh. Exactement.
Eendracht maakt macht.
Vous parlez flamand?
Bravo.
Oui, je parle de langue, bien sûr.
La Brabançonne est son hymne national.
Composé par Van Kampenhout.
Beaucoup de réponses, c'est toujours pas la réponse à la question que j'ai posée.
Alors, il y a sans doute une erreur, je pense, sinon je vois pas quel serait l'intérêt de la question. Puis comme je me suis déjà plantée sur les chats et Georges III, je préfère sombrer avec élégance en répondant « c'est vrai ».
Vous avez gagné.
Et oui, il y a une erreur. Depuis 190 ans, les Belges ont une constitution où il est écrit, on l'a dit, que la devise est « l'union fait la force » et que son drapeau est rouge, jaune et noir. Or, si on regarde le drapeau...
Alors, il est noir, jaune et rouge.
Toujours selon la constitution, les bandes devaient être horizontales, elles sont verticales dans ce pays, on ne fait jamais rien à l'endroit, Philippe Geluck.
Ah, mais je l'ignorais.
Vous l'ignoriez?
Je l'ignorois.
Alors si il l'ignorois, c'est vraiment que ce quiz était intéressant. Bravo, c'est Stéphane Bern qui l'emporte. Je pense
Bravo,
que
Stéphane.
C'est la
Bravo.
Présence de Philippe qui vous a porté chance.
Oui, vraiment. Merci Philippe.
Sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, l'émission qui va vous faire aimer l'histoire. Et oui, chaque après-midi, on réunit trois personnages très différents, mais ayant un point commun, Mathieu. Et aujourd'hui, ce sont trois Belges célèbres.
Dont un avec nous. Oui, Stéphane, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'émission.
Deux. Oui, c'est vrai qu'il y a Pouls aussi. Alors là, il voulait tirer la couverture à lui. Olivier Pouls est déjà avec nous. Je vais vous présenter, Olivier, mais chaque chose en son temps. Je voulais dire à nos auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez dans l'émission la plus chère d'Europe 1.
Coco Chanel au costume, Pablo Picasso au décor.
N'exagérez pas non plus, Stéphane, c'est ça votre défaut. Vous voulez toujours en mettre plein la vue à l'invité. Philippe Geluck est avec nous. Tout se passe bien, Philippe, pour l'instant?
Oui, c'est merveilleux.
Vous saviez qu'Adolphe Sax avait inventé le saxophone?
Oui.
Quelle culture.
Et ce que vous ne savez pas, c'est que Sœur Emmanuel en jouait admirablement aussi.
Ça, c'est vrai?
Non, c'est entièrement faux.
Ah,
c'est perdu.
Moi, je serais nul dans le quiz. Vous me ferez faire le quiz aussi et je me ridiculiserai.
Oui, j'aimerais, ce sera ma revanche. Notre spécial Belgique continue. Après Adolphe Sax, je vais vous parler d'une autre Belge qui a laissé son nom dans l'histoire, Sœur Emmanuelle. Quant à vous, Mathieu, je vous laisserai brosser le portrait de notre invité, Philippe Geluck.
Oui, Philippe a raison d'être tendu, il me connaît, il sait ce que je pense de lui, il s'attend à des coups bas, il a raison.
Eux aussi sont là, l'un est belge, l'autre est portugais. Je vous laisse deviner qui est qui, mais chaque jour il nous raconte l'histoire d'un plat, nous livre sa recette. Aujourd'hui, Olivier, un plat typiquement belge.
Typiquement flamand, même pourrions-nous dire, les carbonades, dit-on d'ailleurs les carbonades à la flamande ou la carbonade à la flamande. Je vous en raconterai l'histoire, puis je vous donnerai surtout les astuces et les trucs pour les réussir de manière immanquable. Et ça m'a donné envie d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de carbonade là tout à coup.
De quoi n'avez-vous pas envie, Olivier? Vous êtes vraiment gourmand. Philippe, nous remonterons aux origines d'une invention avec ce garçon étonnant que vous avez la chance de voir en vrai. Il aime le béton armé, les sapins parfumés de voitures et les ornithorynques. Un garçon si fantaisiste qu'il aurait pu être belge, mais il est portugais.
Oui, voilà, et j'ai trouvé une invention assez sympa, inventée par un Belge, et dont on ne sait rarement qu'elle a été inventée par un Belge, peut-être parce qu'on s'en fout, mais on le verra, c'est le stroboscope.
Ça c'est notre génération, David. J'ai l'impression que Philippe et Stéphane n'ont pas l'air de beaucoup réagir.
Je connais bien.
On a dansé le jerk avec des stroboscopes.
Contrairement à Adolf Sax qui a donné son nom à l'instrument, ce n'est pas Monsieur Straub qui a.
Ce n'est pas Monsieur Straub.
Ah non, c'est vrai, ça sonnait bien Monsieur Straub. Ouais. J'ai pensé qu'il s'appelait Monsieur Straub. Moi, je suis un peu déçu. Lui, il danse le jerk, mais joue surtout avec les mots. Stéphane, vous aurez comme chaque jour le mot de la fin.
Oui, c'est un 2-1. Aujourd'hui, il y a deux expressions. Avoir d'autres chats à fouetter et appeler un chat un chat.
Vous décrypterez pour nous l'origine historique de ces expressions. On a hâte, mais tout de suite, découvrons notre deuxième Belge célèbre du jour, une certaine Sœur Emmanuelle.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Les Belges sont à l'honneur cet après-midi dans Historiquement Vôtre avec Philippe Geluck, notre invité à l'occasion de la sortie du nouvel album du chat. Le chat est parmi nous. Philippe, vous faites honneur à la Belgique, mais vous n'êtes pas le seul. L'honneur de la Belgique, c'est aussi Sœur Emmanuelle, dont Stéphane Bern nous raconte maintenant l'étonnant destin.
Vivre, à quoi ça sert?
Un petit coup de déprime, Stéphane?
Non, Mathieu, c'est le titre du dernier ouvrage de Sœur Emmanuelle paru en 2014, 4 ans avant qu'elle ne disparaisse. Au contraire, cet incorrigible optimiste le répétait à l'envi. La vie est belle, il faut s'aimer. Mais la vie n'a pas toujours été belle pour cette icône de la solidarité. C'est à Bruxelles, le 16 novembre 1908, que naît Madeleine Cinquin, d'un père français et d'une mère belge. La famille vit aisément, son père ayant fait fortune dans la lingerie fine. Elle passe une enfance heureuse entre Paris, Londres et Bruxelles. Le drame de sa vie survient alors qu'elle n'a pas encore 6 ans. En vacances à Ostende, sur la côte belge de la mer du Nord, elle fixe le reflux des vagues et son père qui profite d'une baignade. Soudain, le voilà emporté par les flots sous les yeux de Madeleine. « Cette belle écume, je la vis engloutir le visage chéri de mon papa », écrira-t-elle. La mort de ce père qu'elle aime tant l'arrache à la joie d'être un enfant. Cette expérience fondatrice lui fait découvrir l'impuissance, la mort, mais aussi l'éternité. Autre événement marquant, sa rencontre avec le philosophe Blaise Pascal. À 15 ans, plutôt que d'étudier, Madeleine préfère lire en cachette des romans à l'eau de rose ou rêvasser en regardant par la fenêtre. Mais en jetant un œil à ses livres, elle tombe sur cette phrase de Blaise Pascal « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature ». Mais c'est un roseau qui pense. C'est un choc. Elle réalise que, par la pensée, l'homme peut trouver comment mener une vie heureuse et vertueuse. Pascal devient son maître à penser et ne la quittera jamais. Si la philosophie la passionne, Madeleine a d'autres loisirs. Elle pratique le patinage, le tennis et la danse. Elle va au théâtre et au cinéma. Elle a 20 ans et ce qui compte, c'est le look. Coquette, elle dépense son argent pour être à la mode. Elle cherche à séduire les garçons. Mais il n'y a rien de plus fugitif que le plaisir. Comme tous les jeunes, je cherchais à cacher mon trouble intérieur, expliquera-t-elle. Ce trouble intérieur, elle sent que la religion peut l'en guérir. Que la grande aventure commence. Madeleine prononce ses vœux de religieuse dans la congrégation Notre-Dame de Sion en mai 1931. Elle prend le nom d'Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous » en hébreu, et part enseigner les lettres à Istanbul. Le bac suffit alors pour enseigner en primaire, mais désireuse d'obtenir une licence, elle étudie les lettres françaises à l'université d'Istanbul où elle entre en contact avec les mondes musulmans et juifs. Sœur Emmanuelle,
questionne alors la vérité. Elle cherche partout une preuve de l'existence de Dieu et s'intéresse à toutes les religions. Gilgamesh, Brahma, Bouddha ou encore Confucius n'ont plus de secret pour elle, mais toujours aucune preuve de l'existence de Dieu. C'est Pascal qui la tire de cette interminable quête. Pour lui, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, autant croire en Dieu pour être sûr de gagner sa place au paradis, si paradis il y a. C'est le fameux pari de Pascal. Il écrit aussi « Dieu est un Dieu caché, voilà ce qu'est la foi. Dieu est sensible au cœur, non à la raison. »
Et le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.
Exactement, Mathieu. Ce Dieu sensible au cœur, elle le ressentira plus d'une fois. En 1954, sœur Emmanuelle part enseigner à Tunis, mais l'expérience ne s'épanouit pas. Après un parcours universitaire semé d'embûches, elle obtient enfin sa licence de lettres classiques à l'âge de 55 ans. Elle part alors pour l'Égypte, enseigner la philosophie au collège de Sion à Alexandrie. Et là-bas, elle préfère s'occuper d'enfants défavorisés, car c'est à eux qu'elle pense sans arrêt, les enfants pauvres que la vie n'a pas épargnés. Après l'enseignement, place à son plus bel engagement. En 1971, sœur Emmanuelle prend sa retraite, mais c'était pas pour se la couler douce dans un couvent, non, non. À 63 ans, elle s'installe dans une cabane du bidonville d'Esbet El Nakl au Caire. Sa mission? Améliorer les conditions de vie des chiffonniers, ces éboueurs recycleurs qui représentent la catégorie sociale la plus pauvre d'Égypte. Elle vit au milieu des ordures, des rats, des chiens sauvages et des cochons. Grâce à elle, cet espace poubelle laisse la place à des écoles, des jardins d'enfants, des dispensaires, des centres de formation et un club social. Elle va de bidonville en bidonville offrir ces mêmes infrastructures grâce aux dons qu'elle récolte. La petite sœur des chiffonniers reçoit l'Ordre du Mérite à Paris en 1981. Cette même année, elle crée son association ASMAE, qui milite encore aujourd'hui pour les droits des enfants. En remerciement de son action, sœur Emmanuelle reçoit en 1991 la nationalité égyptienne des mains du président Moubarak. Deux ans plus tard, à la demande de sa congrégation, elle rejoint sa communauté à Kalyan dans le Var. Si elle consacre son temps à la prière, elle continue d'agir pour les SDF, les prisonniers, les drogués et tous ceux qu'elle peut aider. En 2002, elle est élevée au grade de commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur. C'est moins d'un mois avant de souffler ses 100 bougies que sœur Emmanuelle décède, le 20 octobre 2008. « Au cours des dernières années de ma vie, écrivait-elle, il m'est arrivé quelque chose de terrible. Je suis devenue médiatique. » Dans les sondages de popularité en France, je côtoie Johnny Hallyday.
Mais ça ne devait pas être évident pour elle.
Quoi qu'il en soit, avec son look inimitable, ses grosses lunettes, sa blouse grise et ses baskets, et son franc-parler légendaire, elle tutoyait tout le monde sans distinction. Sœur Emmanuelle était devenue l'une des personnalités préférées des Français. On la retrouvait régulièrement en tête du classement. Elle savait bien que tout cela, Mathieu, n'était que vanité. Ce n'est pas tout ce fatras que j'emporterai dans ma tombe, disait-elle. Quand j'arriverai devant le Seigneur, il me demandera pas quelle place j'ai occupée dans les sondages. Après ce court récit sur les 100 ans de sa vie, on se dit qu'elle a quand même bien mérité sa place au paradis.
Europe 1, historiquement vôtre.
Le paradis, on y est un peu cet après-midi avec notre invité qu'on adore, Philippe Geluck, pour notre émission consacrée aux Belges de l'histoire.
Oui, Philippe Geluck, elle manque un peu, sœur Emmanuelle, dans le contexte compliqué que l'on traverse. Elle avait notamment le cœur sur la main, mais le sourire aux lèvres en permanence. Elle trouvait toujours les mots pour nous réconforter. Et puis, elle avait cet humour, peut-être qu'elle tenait de sa Belgique natale.
J'imagine, c'était une personne fascinante, d'abord qui a mené une action absolument remarquable, je veux dire, grand respect, évidemment. Et j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois. Et la première d'entre elles, c'était sur le plateau de Vivement Dimanche avec Drucker. Et dans le ton un petit peu insolent que j'avais adopté, je posais toujours ce que j'appelais les questions à la con aux invités. Et lorsqu'elle est là, vient le moment des questions. Et parmi les questions, je lui dis, j'ai lu dans la presse que vous auriez déclaré, ouvrez les guillemets, moi les pauvres, j'en ai rien à cirer. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'alcool et les voitures de luxe. Et là, elle me jette, elle me fusille du regard. Elle me dit, mais quelle horreur! Mais je n'ai jamais dit ça, mais c'est faux, mais d'où vous sortez ça? Je dis, ah bon, si c'est pas vous, alors ça doit être l'abbé Pierre. Et là, parce que l'abbé Pierre, elle était en secret amoureuse de l'abbé Pierre, c'était son idole. Et donc là, mon truc est là. Elle a été, mais fâchée, tout le monde à l'antenne se disait, mais on savait, cette sainte femme est capable d'avoir autant de dureté dans le regard.
Oui, oui,
à
oui.
Et alors, elle m'a dit, pour ta punition, tu offriras 100 brosses à dents et 100 tubes de dentifrice au village africain qu'elle visitait. L'histoire n'est pas finie, parce que à la sortie de l'émission, il y a ses collaborateurs qui se précipitent vers elle en disant « Mais enfin, Emmanuel, t'as pas compris, Philippe faisait une blague. » Elle dit « Ah ben non, j'ai pas pigé. » Donc, on s'est parlé et on s'est expliqué. Et l'histoire n'est pas encore finie parce que après l'émission, elle est allée dîner au restaurant avec Drucker, c'est Michel qui m'a raconté ça. Et en sortant du restaurant, ils lui ont appelé un taxi. Oh, il dit « J'espère que ce sera une Mercedes. » Et à ce moment-là, elle s'entend dire ça, elle dit « Au fond, mais Philippe avait peut-être raison, j'aime les voitures de luxe !»
C'est une belle histoire, et figurez-vous, en vous entendant la raconter, ben je me souviens de ce moment de télé. Sur le moment, ça doit faire bizarre quand une personne comme Sœur Emmanuelle ne comprend pas la blague, et du coup ça crée cette gêne, ça devait être terrible, vous l'avez mal vécu.
C'était à mes tout débuts, en et plus. J'ai cru que c'était la fin de l'histoire chez Drucker, mais non.
La fin de sa carrière, non. Voilà. Sur le canapé de Michel Drucker.
Plus tard, j'ai un jour dit à Arlette Laguiller, vous naissez en 1939 à telle date. Trois jours après, les Allemands envahissent la France. Ne trouvez-vous pas que leur réaction est disproportionnée? Bon, après...
On continue de parler de Sœur Emmanuelle avec l'inimitable Philippe Gueluc dans un instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, spécial belge célèbre de l'histoire continue avec Philippe Gueluc, le papa du chat. On parle de Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle qui l'a croisée dans les circonstances qu'on a évoquées, effectivement. Elle n'avait pas compris tout à fait sa petite blague. Philippe Gueluc, vous êtes avec nous. Vous nous disiez. Alors, évidemment, Sœur Emmanuelle, on est tous d'accord, c'est une femme entière, volontariste, cabotine, entêtée aussi. Est-ce que c'est une femme qui vous touche, malgré la petite Annie Croche qu'il y a eu entre vous? Et vous étiez quand même. Vous disiez aussi total respect pour Sœur Emmanuelle.
Ah mais absolument. Et puis on s'est revus et puis je dirais pas qu'on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre, mais on a ri de cet incident. Et alors ce qui est drôle, je vous ai raconté l'histoire de la voiture et du taxi, mais c'est ces petits points faibles. C'est-à-dire qu'on sent toujours et on sentait quand on l'a questionnée comme elle était un peu jalouse de Mère Teresa.
Ah bon?
Qui avait eu le prix Nobel de la paix, et elle estimait qu'elle, parce qu'elle disait, elle voulait pas d'honneur, elle s'en fichait des décorations, mais elle aurait pas dit non si on lui avait donné. Et ça, je trouve, c'est magnifique que les grands de ce monde aient comme ça des petites faiblesses.
Alors, Philippe, Adolphe Sax a quitté la Belgique à 26 ans, Sœur Emmanuelle à 23 ans, je ne sais pas quel âge Amélie Nothomb a quitté la Belgique,
jeune.
Sinon, la Belgique, c'est bien, mais il faut pas y rester trop longtemps.
Voilà, il faut savoir partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais ils sont nombreux. Vous savez, ça tient aussi à une époque. Simenon a quitté la Belgique pour faire carrière à Paris. Et quelle carrière? Oui. Brel a quitté la Belgique et s'est installé en France, etc., etc. Ils l'ont tous fait à une époque.
Oui.
Mais c'était une époque.
Il y en a plein. Par exemple, même maintenant, des contemporains de Virginie Efira et Belge. Enfin, ils sont très fiers d'ailleurs de leur belgitude, on peut le dire.
Mais la grande différence, c'est que beaucoup d'artistes belges qui font carrière en France continuent d'habiter la Belgique. Poelvoorde habite toujours Namur, il vient tourner ses films et il rentre chez lui à Namur. Morane, à l'époque, rentrait chez elle à Bruxelles. Moi-même, j'habite à Bruxelles, je viens faire des trucs, des prestations, des petits machins à Paris, et puis je rentre chez moi. Et à l'époque, c'était pas possible parce que le voyage était plus long, et peut-être que culturellement, c'était plus important de monter à Paris, comme le font les provinciaux en France. C'est une forme de réussite. Et maintenant, depuis que le regard des Français a changé sur la Belgique, parce qu'il a vraiment changé.
Par rapport à ce qu'a connu Adolphe Sax, où dans le 9e arrondissement, on l'insultait en disant le Belge, ça a changé, non?
Dans mon petit à-terre à Paris, on n'a jamais tenté de mettre le feu, par exemple, vous savez.
On parle de la médiatisation de Sœur Emmanuelle, parce que j'ai été étonné, Stéphane, par la fin de votre récit, quand vous dites, c'était une citation de Sœur Emmanuelle qui dit qu'elle n'avait pas souhaité cette médiatisation. Oui. J'ai du mal à le comprendre, parce que cette personnalité, sa manière de crier Yalla, de se mettre en scène, on dirait qu'elle était faite pour ça, on dirait quelque part qu'elle le cherchait. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté de ce côté-là? Elle était bien contente d'être célèbre, quelque part.
Oui. Non, non, mais vous avez raison. Et il y a cette espèce de fausse modestie. Elle était d'une part une bête de scène, donc elle, oui.
elle le savait.
Et je pense qu'au-delà de ça, elle en était très fière et le trouvait ce statut très utile pour porter le message. Parce que imaginez qu'elle soit complètement racrapotée, qu'elle communique pas, etc. C'est pas très bon pour porter son association et au-delà de ça, aider des enfants dans la souffrance.
Oui. Puis surtout, elle avait une jeunesse incroyable, une jeunesse d'esprit éternel. Elle parlait un langage que tout le monde pouvait comprendre. Elle disait j'ai peut-être 100 ans, mais j'ai 25 ans dans ma tête.
J'ai fait, au moment de sa disparition, un dessin qui lui rendait hommage. J'ai titré ça « Sœur Emmanuelle nous a quittés ». Et on la voit s'élever vers le ciel avec des petites ailes dans le dos. Et elle ajoute « Et n'en profitez pas pour regarder sous mes jupes
!» C'est mignon, mais voilà. C'est mignon. Vous aviez été plus trash, ça vous est arrivé.
Une autre fois, mais n'en parlons pas aujourd'hui, s'il vous plaît. J'ai une réputation
mieux.
Tenir.
Dans le dernier album du chat, vous autorisez absolument tout en matière de religion. Vous mettez jamais de limite. Il y a
si. Je traite de toutes les religions et je le fais depuis toujours, sans distinguer l'une par rapport à l'autre. Je rentre dans le chou des intégristes, des salopards, des abuseurs de tous bords. Il y a une chose, et ça a créé un petit peu de la polémique, et je ne sais pas pourquoi, c'est que j'ai dit que, par exemple, je dessinerai jamais le prophète des musulmans. D'une part, parce que j'ai pas envie d'arriver dans cette culture que je connais pas, que je préfère rire davantage. Mais je ride aussi de la religion musulmane. Mais je trouve que là, il y a, comment dire, c'est pas, pour moi,
c'est pas utile, oui.
C'est pas utile, et je trouve que ça va bien. C'est pas utile de ressortir continuellement ces caricatures pour les mettre devant le nez de gens qui sont pacifiques et qui sont démocrates et qui sont de braves gens, mais que ça blesse intimement dans leur foi de voir ces caricatures. Et je trouve qu'il faut, voilà, moi j'ai envie qu'on arrête un petit peu avec ça,
oui,
mais qu'on ne faiblisse pas sur l'humour, la caricature en général, et la critique de la religion, etc., et qu'on en fasse surtout de la pédagogie auprès de ceux qui reçoivent ça comme une violence.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, on évoque les Belges célèbres de l'histoire. Après Adolphe Sax et Sœur Emmanuelle, pour votre portrait à 99% en vrai, vous avez décidé, Mathieu, sans flagornerie aucune, de saluer le génie de notre invité de cet après-midi.
Dont l'album Le Chat est parmi nous, certainement un de ses meilleurs, est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est important de le rappeler, Stéphane.
Pour la 77e fois, oui, ah Mathieu. Oui. Mais donc, nous écoutons, Mathieu, votre portrait garanti sans flagornerie.
Garanti, Stéphane. Vous connaissez mon côté impitoyable, mon courage légendaire, surtout quand l'invité est en studio face à moi, à portée du percute. C'est pourquoi l'angle de mon portrait ne vous surprendra pas. Philippe Geluck ou l'histoire du Belge qui devint plus célèbre. Qu'Hergé. Et a raison. Et dépêchons-nous car il y a tant à dire sur votre phénoménale carrière, Philippe. Et puis Stéphane n'est plus tout jeune à cette heure-ci. Il commence à fatiguer.
Mais à son âge, on peut craindre qu'à tout moment, il nous quitte.
Exactement, exactement. Donc entamons ce portrait qui, aussi lèche-cul soit-il, sera néanmoins subdivisé en trois parties. Geluck le dessinateur, Geluck le magicien et Geluck le Jodassin avorté.
Je t'avais rencontré sur la plage de cette île au large du Mexique où nous courions nus, Kiki.
Mais où courions-nous nus, Poupou ?
Tu voulais écouter le courroucoucou, Kiki ?
Quel courroucoucou, Poupou ?
Commençons par le commencement, ça vous avez compris, c'était Philippe Geluck dans sa jeunesse. Philippe Geluck vient au monde le 7 mai 1954. Son père, Didier Geluck, est dessinateur de presse sous le pseudonyme de Diluc. Il est aussi militant communiste, je lis doucement, pas trop choqué Stéphane. Sa mère, Lucille, a fait des études de chant classique au conservatoire... Elle a rencontré son futur mari dans une troupe de théâtre amateur. Une mère artiste, un père dessinateur de presse, donc, et les chiens ne faisant pas des chats, ou plutôt si, le petit Geluck s'essaye très tôt au dessin, notamment dans les toilettes de l'appartement familial où avec son frère, il gribouille une espèce de journal mural. On est en 71, un jour, un laveur de vitres va faire pipi. Ressort des WC mort de rire et promet à Philippe de parler de ses dessins à son ami Bob de Groot, rédacteur en chef du journal humoristique L'œuf. Quelques semaines plus tard, les premiers dessins humoristiques du jeune Geluck sont publiés. La pompe du succès est amorcée. N'ayant pas l'intention d'amputer le 18-20 de Julien Bugier d'une demi-heure, je ne peux pas ici rapporter le nombre de dessins, de collaborations qu'on doit à Philippe au cours de sa carrière. Je résumerai donc grossièrement en disant que c'est le personnage du chat créé le 22 mars 1983 sur commande du quotidien belge francophone Le Soir. Personnage qui fait troublant, naît sous sa plume au moment même où Hergé, le papa de Tintin, rend l'âme.
un peu comme ça, qui va propulser Philippe Geluck du statut de dessinateur talentueux à celui de superstar de la BD, de patron de PME, si vous voulez, à Jeff Bezos. Car oui, Le Chat, c'est plus de 30 albums, tous best-sellers, vendus à plus de 14,5 millions d'exemplaires et traduits en une quinzaine de langues. Un autre que lui aurait pris la grosse tête, grisé d'avoir créé ainsi un personnage en passe de devenir plus célèbre que celui d'Hergé.
Et pendant ta gueule, comme on dit à la boxe.
Mais pas mon Philippe qui a su rester humble devant le succès. Vous dites, il y a deux termes que je n'emploie pas, être reconnu et être arrivé. Et vous le prouvez en multipliant les nouveaux projets. En ce moment, vous êtes exposé par exemple au musée Soulages de Rodez, aux côtés du Travaux du Maître. On peut notamment y voir Le Chat plongé dans le noir avec ce titre, panne de courant au musée Soulages, et Le Chat de déclarer, ça reste beau. Cette fantaisie, cette poésie qui vous anime, ce n'est pas toujours exprimé par le dessin, mais aussi, certains en France l'oublient, par le chant. C'est ce qui nous amène à la deuxième partie de ma biographie, l'avant-chat, ou plutôt l'avant-succès commercial du chat, car en 1984, Le Chat était né, mais vous officiez encore à la télévision belge, en duo avec celle qui fut avec votre épouse Dany, l'autre grand amour de votre vie, Malvira. Oh, ce n'est certainement pas son physique qui vous avait plu chez elle, ni sa voix, qui était aussi la vôtre, puisque vous étiez ventriloque.
Ah, tout ça est si loin et si flou, Popo.
Tu étais si belle quand tu secouais les cocotiers. Mais ça devait arriver.
Eh oui, j'en ai brûlé sur la gueule.
Tu gisais là comme une méduse aux longs cheveux de soie. Je t'ai jeté dans les vagues, en espérant qu'un banc de morue te ramènerait jusqu'à Ostende. Oh, si au moins tu avais porté ce beau chapeau que je t'avais offert.
Quoi ? Ce ridicule chapeau mexicain à large bord, ce...
Sombrero.
Étonnamment, le jour où les droits d'auteur du chat ont commencé à tomber comme la pluie à Ostende en novembre, vous avez délaissé Malvira, qui doit dormir aujourd'hui au fond d'un placard entre un imper élimé et un vieux... Entre Malvira et Dany, votre épouse, vous avez finalement choisi Dany, qui est pourtant beaucoup plus dur avec vous. Dernièrement, durant le confinement, vous avez en effet pris des cours de magie sur Internet pour pouvoir faire des tours à vos petits-enfants. J'ai lu ça. Passé le premier choc psychologique quand j'ai lu ça, c'est vrai, hein, quand un Belge veut faire des tours à des petits-enfants, ça renvoie à de sombres numéros de faites entrer l'accusé. J'ai réalisé que c'était dans votre cas tout à fait innocent et que ça avait marché. Vos petits-enfants ont adoré les tours de magie que vous leur faisiez via WhatsApp. Votre épouse, elle, je cite, trouvait ça plutôt nul. Vous me confirmez?
Je confirme. Mais... Elle voyait, mais on voit le truc qui dépasse à droite. Alors que les enfants de 3 et 5 ans ne voient pas.
Moi, je suis sûr que c'était super, Philippe, car vous l'avez compris, je vous adore. On ne le dira jamais assez, le papa du chat est non seulement ambassadeur du génie belge, mais aussi un type en or extrêmement généreux. La preuve, fin 2020, réalisant que son compte bancaire croule sous les recettes indécentes engrangées par les droits sur les produits dérivés tels que les casquettes, le chat, les mugs, le chat, les tapis à souris du chat, au-delà du paradoxe, tous les produits Le Chat, à l'exception de la lessive, seul truc à chat dont il n'est pas les droits, Philippe Geluck décide dans un magnifique élan de générosité de reverser 20% de ses droits annuels, soit environ 160 millions d'euros, à un jeune Helvète dans le besoin et quasiment sans domicile fixe qui jusque-là vivait chichement, il faut bien le dire, au crochet d'Arnaud Lagardère. En contrepartie, le Suisse, connu pour aimer dire du mal des gens, s'engage à cirer les pompes de Geluck jusqu'à la fin de sa vie professionnelle et à faire la pub de chaque nouvel album du chat. Au fait, vous ai-je parlé du dernier album du chat ? Le Chat est parmi nous. Superbe album cartonné en couleur qui gorge de gages gloufoques et oniriques qui vous feront vite oublier les affres du confinement. Le tout pour la modique somme, Stéphane, non pas de 12 euros, non pas de 11,90 euros, mais de 11,95 euros. Oui, Stéphane, qu'est-ce qu'on ressent quand on apprend ça ?
Eh bien, les tétons ont tendance à pointer.
Oh, les miens aussi ! Les miens aussi ! Pour tout ça, mon cher Geluck, je vous tire mon chapeau, ou plutôt mon...
Sombrero.
J'ai une fascination pour cette chanson de son avec Malvira. Je trouve qu'elle était vraiment, mais...
Ouais, mais je trouve qu'elle n'a pas pris une ride.
Elle n'a pas pris une ride. Olivier, vous la connaissiez, Olivier Pouls?
Oui, parce que pour moi, belge, Philippe Geluck, avant d'être l'auteur du chat, ça a été l'animateur de Lollipop, une émission que je regardais tous les jours en rentrant de l'école. Et le fait de l'avoir là devant moi, c'est très émouvant, vous savez, pour un petit garçon qui l'a regardé pendant des années. Et Malvira, je m'en souviens très bien, la sorcière qui crachait.
Et après ça... Ouais, très vulgaire. Très direct, très franc-parler. Et je me suis retiré volontairement de cette émission après 5 ans de présence quotidienne. À l'époque, j'avais dit pour pas devenir le Dorothée des années 2000.
Ah oui, il y avait ce risque. Mais c'était Dorothée avec un petit peu plus d'humour. Comme Dorothée,
oui,
second degré, quoi.
Mais quand il venait parfois chanter ses chansons dans notre émission pour faire la promo de ses albums, ils étaient, elle et son producteur, absolument ahuri de voir la liberté de ton qu'on avait à la RTBF, c'est alors que chez eux, sur la télévision française, service public ou privé, il fallait donner le texte pour approbation avant de faire l'émission à l'antenne. Absolument.
En tout cas, bravo Mathieu, là vous avez tenu votre promesse.
100%
vrai et 99% de flagornerie. Il y avait donc...
Ah, vous trouvez, moi je trouvais qu'il était un peu dur.
C'était un peu élogieux quand même, pardon, mais... quand ça touche mes copains, c'est beaucoup plus dur. Hein.
Oui, mais c'est un type, il est juste, il est dur, mais juste, oui, il sait reconnaître le talent.
Je suis suisse.
Simplement.
Mais non, absolument, et tout le monde vous reconnaît le talent, Philippe.
Merci. Comment il s'appelle
Le co-animateur s'appelle Stéphane. Oui.
Merci.
Et te remercie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre. Un enchaînement virtuose de chroniques en forme de pont entre le passé et le présent. Et en belge aujourd'hui, s'il vous plaît.
Oui Stéphane, comment est née une expression, un plat ou encore une invention qui fait désormais partie de notre quotidien? C'est ce qu'on découvre dans cette ultime demi-heure avec nos trois fantastiques. Et je vous compte dedans Stéphane. Olivier Pouls, premier fantastique, le fantastique de la gastronomie. Aujourd'hui forcément un plat belge.
Bah oui, évidemment, les ou la carbonade à la flamande, plat emblématique. Non, je vous livrerai tous les secrets.
C'est un truc à la bière, non?
Ah bah évidemment.
Ouais. Je sais pas, j'ai eu l'impression de donner un truc initié.
Un ragoût à la bière.
Tout le monde le savait, très bien. Le mot de la fin, c'est Stéphane Bern qui l'aura, évidemment. Deux expressions pour le prix d'une aujourd'hui autour du chat, évidemment.
Bien sûr, j'ai d'autres chats à fouetter et appeler un chat un chat. Vous allez voir, dans les deux cas, c'est assez coquin.
C'est assez coquin, très bien. On a hâte, mais d'abord, Philippe Gueluc, on va écouter celui de chroniqueur qui est vraiment le plus en prise avec les choses du quotidien, comme le Tipex, le béton armé ou le Rubik's Cube aquatique, et qui va aujourd'hui nous raconter l'origine d'un objet belge, apparemment, le stroboscope.
Tout à fait,
David Castello-Lopez arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Notre spécial belge célèbre de l'histoire continue toujours en compagnie de Philippe Gueluc, l'auteur du Chat. Avec David Castello-Lopez, chaque jour, on découvre l'origine d'une invention qui fait notre quotidien. Alors bon, là, c'est pas notre quotidien depuis longtemps puisqu'on va plus trop en boîte de nuit.
Mais... Oui, c'est le stroboscope. Hein. Vous voyez ce que je veux dire.
C'est tout ma jeunesse. Oui. Moi, j'avais même acheté un stroboscope pour faire ma boum.
Attendez,
vous aussi, c'est toujours comme ça. Le problème, c'est qu'avec David, on a la même vie, on a le même âge, on a la même connerie. Donc forcément, on a les mêmes idées.
Vous avez aussi un garage.
David, racontez-nous le stroboscope.
Moi, quand j'étais en 6e, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Constance. Et c'était pas facile parce que elle, non. C'est-à-dire,
c'est vraiment la même vie qu'on a eue,
voilà,
là.
Elle s'intéressait pas à moi.
On a tous eu la même vie.
Elle s'intéressait pas à moi. Mais heureusement, dans ma poursuite amoureuse, j'avais un allié, enfin, un camarade qui s'appelait Yann. Et qui était, lui, incroyablement à l'aise. Ce qui était assez remarquable d'ailleurs parce qu'il était tout petit, il avait un triple menton à l'âge de 11 ans.
S'il nous écoute aujourd'hui.
Et il respirait très bruyamment, mais il avait une tchatche de niveau international. Donc c'était un petit peu, si vous voulez, mon mentor de cool. Et je me disais qu'il pouvait peut-être m'aider donc à sortir avec Constance. Il m'avait dit à ce propos qu'une des façons d'être cool et donc d'embrasser des filles, c'était d'organiser des booms. Lui, il en avait déjà organisé plein. Alors je l'ai fait venir chez moi en tant que consultant de boom, si vous voulez. Et ma mère, elle s'en souvient encore parce que bon, il avait 11 ans, il mesurait 1m20, mais il disait des trucs du genre bon là, il faudrait prévoir une table avec du jus d'orange, hein. Ensuite, c'est minimum 200 grammes de bonbons par personne, hein, pas moins. Et bien sûr, ça va sans dire, il va falloir louer du matériel de boîte de nuit, hein, et surtout un stroboscope, sinon je ne peux pas garantir le niveau de fun de cette boom. Alors, j'ai convaincu ma mère et on est allé louer un stroboscope. Et le 16 janvier 1993, entre 14h30 et 18h30, a eu lieu ce qu'on a appelé la première boom de David Castello-Lopez. Elle est restée dans les mémoires, cette boom, pour plein de raisons. Pour les slows sur Heal the World de Michael Jackson. Pour les chorégraphies sur Do You Remember the Time de Michael Jackson. Pour le moonwalk en chaussettes sur Smooth Criminal de Michael Jackson. Et enfin, surtout, pour le côté un petit peu professionnel qu'avait donné à cette boom, le stroboscope. Cette lampe qui rend la réalité visible, intermittente et donc du même coup mystérieuse et sexy. Je reviendrai à cette boom plus tard, mais si vous voulez bien, je vais d'abord parler de ce pourquoi on paye dans cette émission, c'est-à-dire non pas pour raconter mon adolescence, mais pour raconter l'histoire des objets.
C'est aussi la mienne.
Et aujourd'hui donc ce fameux
monsieur stroboscope.
Exactement. Et si je vous en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale Belgique, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est que les débuts du stroboscope, on les doit à un Belge qui s'appelait Joseph Plateau. Joseph, il est né en 1801. Oui, oui, les Belges connaissent les Belges.
Ah bon, c'est ça. Ça, c'est fou. Ils connaissent tous les Belges.
La persistance rétinienne, c'est ça. Oui, oui, absolument.
Joseph Plato, c'était un peu ce qu'on pourrait appeler un geek de la lumière. Vous voyez, c'est en particulier de l'étude de comment l'œil humain l'aperçoit. Et en 1832, il a inventé ce qu'on a appelé le phénakistiscope. Phénakos en grec, ça veut dire le tromper, la tromperie. Donc c'est tromper l'œil en fait, si vous voulez. C'était un disque sur lequel étaient dessinées des images légèrement différentes les unes des autres. Ce disque était percé d'ouvertures rectangulaires. On le faisait tourner et quand on plaçait son œil à un endroit précis et qu'on regardait le reflet du disque dans un miroir, eh bien on avait l'impression que les images bougeaient. C'est considéré comme le plus vieil ancêtre du cinéma, mais également comme le plus vieil ancêtre du stroboscope parce que c'est un principe très voisin. Un stroboscope, c'est une lumière qui s'allume et puis qui s'éteint, et puis qui s'allume, et puis qui s'éteint. Et là, c'est le même effet qui est obtenu, mais avec des trous. Quand un trou est en face de votre œil, c'est comme si la lumière était allumée. Quand votre œil est en face d'une partie pleine du disque, c'est comme si la lumière était éteinte. Ça a eu un très très gros succès, en particulier en tant que jouet pour les enfants. Mais il a fallu attendre 100 ans, 1932, pour que le stroboscope électronique moderne soit inventé par un monsieur américain qui s'appelait Doc Edgerton et qu'on surnommait Papa Flash. Edgerton, il a utilisé son stroboscope pour prendre des photos à grande vitesse, notamment une assez célèbre d'une balle de revolver qui traverse une carte à jouer. Et son stroboscope a aussi été utilisé dans l'industrie parce que la lumière intermittente a la faculté, quand on la règle bien, de rendre apparemment plus lent les mouvements très rapides que sinon on a du mal à voir.
Ça a inventé le ralenti.
Exactement. Et donc un rouage qui tourne très vite, par exemple, vous voulez savoir s'il déconne ou pas, on voit rien, et ben avec un stroboscope, on peut étudier son mouvement. Bon, en revanche, c'est assez difficile de savoir quand le stroboscope est entré dans les boîtes de nuit. On lit, mais sans que ce soit vérifié, que c'est dans les années 60 aux États-Unis, mais bon, on sait pas. En tout cas, en 1993, ça a donné lieu à une belle boom qui est restée dans les mémoires, mais malheureusement, pour moi, ça n'a pas été suffisant. Constance n'a jamais voulu de moi, ni sous la lumière des stroboscopes, ni plus tard. Pourquoi ? Eh bien, pour le savoir, 28 ans plus tard, je l'ai appelé. Hier soir, je l'ai appelé, Constance, et elle m'a répondu un petit peu plus tard avec une note vocale.
Non.
Et voici
non.
donc les explications de pourquoi, en 1993, Constance ne voulait pas de moi.
Ce dont je me souviens, c'est que oui, effectivement, tu n'étais pas extrêmement populaire en sixième, parce que tu étais beaucoup trop intelligent. Et donc, il y avait forcément une certaine forme de jalousie caché de notre part parce que tu étais un peu faillot également
voilà.
avec les professeurs et on peut pas être faillot en sixième, c'est pas possible, c'est fini ça.
Voilà, donc un côté assez sympa, tu étais trop intelligent, on était jaloux, et à l'autre côté t'étais un faillot et voilà pourquoi on voulait pas sortir avec toi.
C'est
voilà.
génial, vous m'appellerez Sandra Elguire pour savoir pourquoi en sixième elle est pas sortie avec moi alors que j'ai organisé la meilleure boum de l'histoire. On a tous, Philippe, des souvenirs de boum.
Mais bien entendu, je n'ai que ça. C'était bien avant vous, et je peux vous confirmer que le stroboscope était utilisé dans la fin des années 60 dans les booms en Belgique. De même que la sangria, qui ressemble, je sais pas si vous avez noté que la sangria, donc c'est du vin avec des morceaux de truie, de la sangria vomie ressemble étonnamment à de la sangria pas vomie. Ça a un petit peu le même goût aigrelé.
Ah non!
Mais je voulais terminer sur une note historique avec Plato dont vous avez parlé. Joseph Plato, donc, qui est un petit peu l'inventeur du cinéma et en tout cas de l'animation. Vous savez comment il a fini, lui? Il était tellement passionné par la lumière qu'il a essayé de regarder le soleil en face, il s'est brûlé les deux rétines.
Voilà, persistance rétinienne totale jusqu'à la fin de sa vie.
On peut être un génie et être un con, en fait.
Il a fait des expériences et voilà. En tout cas, merci David, c'était passionnant.
C'est formidable.
Les origines de votre première boum aussi, en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et bonjour à Constance.
Bonjour. Olivier Pouls nous racontera peut-être lui aussi sa première carbonate coquine dans un instant. Secret de recette avec Olivier Pouls.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il est le seul Belge, vraiment Belge, disposant d'un passeport belge, à ne pas savoir imiter l'accent belge. Démonstration.
Vous voulez un petit accent belge? Je vous ai déjà dit trois fois, au moins, qu'il n'y a pas un accent belge. Il y a plein d'accents belges. Si, évidemment que je ferai un peu l'accent belge. Mais ça, c'est plutôt l'accent bruxellois.
C'est bon?
Évidemment, l'accent bruxellois.
Je dois confirmer que son accent bruxellois est remarquable.
Après, tu as l'accent flamand aussi. Ça, c'est pas tout à fait pareil. Et en troisième accent belge, il y a l'accent liège, par exemple. Ça, c'est l'accent litcha.
Oui, l'accent wallou, c'est tout à fait différent.
Ah, vous connaissez donc, il le sait.
Mais le français, Oh, c'est moyen. Comme vous-même qui êtes suisse, vous ne savez pas toutes les subtilités.
Vous n'entendez pas bien, donc vous ne le comprenez pas.
Bon, eh bien, je m'incline devant ces magnifiques imitations.
Je vais toute la chronique avec l'accent, parce que là, ça verrait un peu lourd.
On se croirait dans un film de boulevard. Olivier Pouls, vous êtes notre cordon bleu, en plus d'être belge, et aujourd'hui, vous réunissez vos deux passions, la gastronomie et la Belgique.
Ben exactement, mon cher Philippe, j'imagine que les plats belges, vous aimez ça et vous en consommez régulièrement.
Bien entendu, le chicon au gratin.
Voilà. Le waterzooi. Les spéculoos, on arrive bientôt à la fin de l'année. Mais moi, je vais vous parler des carbonades. On va dire c'est le ragoût. C'est un peu le bœuf bourguignon à la belge. C'est un plat qui est moyenâgeux, qui permettait surtout, comme c'est des plats à cuisson très longue, de passer ce qu'on appelle les morceaux de viande les moins nobles. Vous savez, les morceaux de viande qui sont un peu durs, qui sont assez peu gras en réalité, qui donc ont besoin d'une longue cuisson pour s'assouplir. Et donc le nom de carbonade vient du nom de vieux français qui était la charbonnée, qui désigne un plat cuit longtemps sur de la braise de charbon. D'où le nom carbonade qu'on peut utiliser au singulier ou au pluriel.
Rien à voir avec la carbonara,
un ou deux N. Et donc, la recette, c'est extrêmement simple. Et puis surtout, à part du temps, tout le monde peut le réussir. Il vous faut 2-3 heures devant vous, mais après, vous pouvez le réussir. Donc, vous allez prendre de la viande de bœuf, ce qu'on appelle les bas morceaux, du jarret par exemple. Moi j'aime bien avec la joue aussi, la joue c'est très fondant.
Mais oui, vous me parlez de ça, moi je pense au bœuf carotte des Français.
Exactement.
Il y a un petit peu un lien entre les deux.
Ressemble.
Et je trouve que la joue de bœuf est beaucoup plus tendre que ce qu'on m'a servi pendant mon enfance en carbonade flamande, c'est-à-dire du bouilli, ce qu'on appelait du bouilli en Belgique.
Oui, et qui tous est un les peu bas sec. Morceaux et qui font vraiment cuire très 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 longtemps.
Joue de bœuf, c'est bien.
Une belle joue de bœuf, il vous faut des oignons. Le secret, c'est qu'il vous faut du pain. Alors, soit on utilise du pain d'épices, soit simplement un pain de campagne rassis, qu'on tartine de moutarde. Il vous faut de la bière, évidemment.
Ou de la gueuse.
Oui, une bonne bière d'abbaye, une bière brune légèrement sucrée. Et puis, un bouquin garni et un tout petit peu de farine. Donc, vous allez prendre vos morceaux de bœuf, vous allez faire revenir dans de la matière grasse, vous allez légèrement les fariner, vous mouillez avec la bière, vous rajoutez les oignons, vous rajoutez les tranches de pain de campagne, mais avec la cuisson, votre pain, il va faire la liaison de la sauce. Vous n'allez plus le retrouver dedans. Il va se désagréger et il va finir par lier la sauce, ce qui, avec la réduction, va donner une consistance un peu sirupeuse. 2-3 heures de cuisson sur le coin du feu, vous accompagnez ça de quelques bonnes frites et d'un verre de bière d'abbaye belge, et là, je pense que vous êtes totalement dans le sujet.
Philippe, ça fait partie de vos madeleines de Proust, la carbonade?
Ah oui, absolument. Mais comme je disais, juste, c'est la qualité de la viande qui prime. Et non, rien à dire, c'est parfait. C'est la recette.
C'est la recette authentique,
classique, parfaite.
Certains rajoutent une petite cuillère de cassonade dans la sauce.
Vous nous avez ouvert l'appétit pour le dîner de ce soir.
Ouais,
merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Absolument.
La langue française est pleine de pièges, difficiles à déjouer, surtout pour des Belges. Heureusement, messieurs, Stéphane Bern est là. Chaque après-midi, il s'empare d'une expression et vous l'explique. Et le plus fou, le plus beau, c'est qu'il le fait gratuitement. Il est la sœur Emmanuel Desmaux. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est un moment un peu technique de l'émission, moment où Stéphane Bern est censé nous dévoiler l'origine d'une expression française. Seul problème, mon cher Philippe Gueluc, les jours où il doit décortiquer une expression un peu vulgaire, comme l'autre fois les variantes cocasses de l'expression « aller à la selle ». Et il a eu beau se signer 3 fois et s'asperger d'eau bénite, il n'a pas réussi à en prononcer beaucoup. En fait, il en a prononcé 1 sur 4, se répétant
« Je ne peux pas !»
Jusqu'à oser enfin prononcer du bout des lèvres la moins trash des 4.
Avoir le 750. Vous êtes en bout de piste.
Stéphane, arrêtez avec vos manières. On est entre copains, là. Livrez-nous vos fins mots de l'histoire sans chichi. Et en plus, aujourd'hui, ça devrait amuser notre invité, spécialiste du chat.
Oui, chat alors. Oui, comme promis tout à l'heure.
Oh, dis donc ça, Philippe, ça serait un bon gag dans un numéro du chat.
C'est pas con. Je vais la noter si je peux.
Si on peut vous apporter une inspiration de qualité.
Depuis 37 ans. Depuis 37 ans, j'y ai pas pensé.
Pardon, Stéphane. Pardon. Alors, fais-nous le mot de la fin.
Oui, comme promis tout à l'heure, voici donc 2 expressions pour le prix d'une. Elles ont un point commun, celui de contenir le mot chat. Mais c'est pas forcément l'animal.
Le mot chat, mais pas forcément l'animal. Je sens que nous prenons une pente dangereuse. Ne me dites pas que votre chronique va être friponne, Stéphane.
J'en ai bien peur, Mathieu. Pour la première expression, avoir d'autres chats à fouetter, il faut savoir qu'elle apparaît au XVIIe siècle. Étrangement, en Angleterre, on dit « to have other fish to fry ». Comprenez, avoir d'autres poissons à frire. Selon Alain Rey, fouetter n'était pas à l'époque à prendre au sens fouetter avec un fouet.
Ah bon ?
Fouetter devait être compris comme une façon argotique pour désigner l'acte sexuel.
Carrément.
Cela explique la présence du chat qu'on fouette, chat qui évoque, vous l'avez compris, l'intimité féminine.
Mmh, voilà. Je crains d'avoir compris.
C'est exactement la même logique qui prévaut dans la formule « appeler un chat un chat ». C'est au XVIIe siècle également que l'expression est employée pour la première fois. Et déjà à l'époque, on se plaignait de pas pouvoir toujours appeler les choses par leur nom. C'était en quelque sorte les prémices du politiquement correct. Le chat, ici, évoque encore une fois ce qui se passe sous les jupons. Boileau a popularisé l'expression en disant « j'appelle un chat et Rollet un fripon », Charles Rollet étant un procureur malhonnête connu à l'époque. Notez qu'en Grèce, on dit « appelez les figues et la bassine, la bassine ». Voilà qui est logique. Et chez nos amis hollandais, on préfère « appeler la petite bête par son nom ». Tout un programme.
C'est la fin de ce numéro d'Historiquement Vôtre dédié au génie belge. C'est la main sur le cœur et des souvenirs plein la tête que notre invité Philippe Geluck va s'en retourner à sa Wallonie chérie. Vous avez passé un bon moment, Philippe, en notre compagnie.
Délicieux. Je suis juste un tout petit peu déçu d'une chose, c'est que vous n'ayez pas commenté le masque que je porte,
mais en fait,
qui est à l'effigie du chat. Je vous en avais apporté
non,
un pour
c'est vrai.
Vous. Mais oui, un petit cadeau.
Oh, bah ça, c'est superbe. Alors, il est très beau en plus. Ah, ouais, alors là, c'est quand même
et
effectivement
en plus,
la classe.
Il porte un slogan qui est très fort en ce moment, le chat dit « restons négatifs ». Ce qui est important en ces temps de pandémie.
Vous reviendrez si on fait une spéciale chat, Philippe.
Oh, mais bien entendu.
Vous serez des nôtres.
Non, mais c'était vraiment, on a appris plein de choses sur la Belgique.
On a appris plein de choses sur la Belgique.
C'était une belle spéciale. D'ailleurs, j'en profite parce que je sais qu'on est très écoutés en Belgique pour embrasser et saluer tous nos amis belges.
Eh bien, nous les embrassons fort, mais avec le masque du chat, c'est quand même plus prudent. Restons négatifs, les sangs qui
vous
courent.
Vous avez réussi à recaser encore une promo pour
le chat.
Non, c'est pas avec Philippe.
Alors là, Stéphane, vous vous trompez complètement. Non, c'est pas une promo, c'est juste pour rendre service.
Exactement.
Et pour arrêter cette putain d'épidémie.
Oui.
Et vous pouvez les trouver, si vous les voulez vraiment, sur lechat.com.
Ce qui n'empêche pas le chat d'être disponible à 11,95€ dans toutes les bonnes librairies.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est pour faire du bien à l'esprit, et l'autre, c'est pour faire du bien à la santé publique. À l'humanité. Ne me dites pas merci, c'est normal.
Si. Et ben moi, je vous remercie, Philippe Geluck.
Et le calendrier 2021 aussi.
Oui, arrêtez. Je suis gêné.
Et puis, il y a les chocolats, et puis il y a le chat de ma belle-mère. Enfin, bref. À demain, Mathieu.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.